Donc, le 20h30 va commencer un peu plus tard, c'est pas grave. Et à votre aille.
Encore une coïncidence, tu vas être sur la table.
Donc, Parchat Kedoshim. Parchat Kedoshim. Tout le monde est assis. On va acheter une taille. Mais il reste de place. Oui, c'est bon, il y a de place. Encore une place là-bas. Et deux places ici. Voilà. C'est bon signe quand on manque de place, on juste serrer, c'est bon signe. Le parking se remplit, il y a moins de place. Bon, c'est bien. Bientôt, j'espère qu'il y aura des bouchons dans tout Créteil. Bien. En tous les cas, Kedoshim Tiyu. Cette notion de Kedusha, dans la paracha, rapprochez-vous. Dans la paracha. En fait, ça fait des années qu'on passe cette paracha et on n'est jamais très sûr d'avoir bien compris ce qu'est la Kedusha, la sainteté. Quand je dis quelqu'un, il est. Quand on entend saint, la première image qu'on se met dans la tête. Ouais, comme c'est un genre de truc, ou alors pas si haut que ça, un sac de patates avec trois trous, oui, pour rentrer les deux bras et la tête, on achète des sabbats, et puis on va vivre dans un monastère, et sans oublier d'acheter évidemment chaussée aux moines, et le petit litre, et chaussée aux moines c'est le camembert, et puis aller se détacher de la vie en jupette, d'accord, quelque part sur la montagne. Là, le saint. C'est, on a celui qui se sépare du monde matériel. On dira, hein, c'est l'image qu'on se donne. Je sais pas, qu'est-ce que vous donnez comme image, vous j'espère à partir de ce soir, vous n'aurez plus jamais cette image-là en tête. Le saint. La sainteté, c'est quoi? Sanctification, sanctifier. Alors, quand on passe la paracha, évidemment, on n'a pas encore une idée très claire, parce qu'on nous demande, on dit, soyez saints. Daber Hashem le Moshe le mort, Daber el Bnei Israël, Daber el Koladat Bnei Israël, Ve'amarta Alehem, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Hashem le Kechem. Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani, soyez saints car moi je suis saint. Alors là, on nous demande d'être comme le bon Dieu, c'est quoi ça? Lui il est saint, il n'est pas attaché au monde, il n'est pas du tout attaché à ce monde. Comment nous, parce que Kadosh Boku est saint, nous devons être saints? Ça ne veut rien dire encore. Quand on passe la paracha entière, alors on voit de tout. Je ne sais pas si vous avez lu un peu la paracha, mais on voit de tout. On voit comment l'homme doit se conduire avec son père et sa mère, comment l'homme doit se conduire avec son ami, comment l'homme doit se conduire avec son ennemi, comment l'homme doit se conduire avec son ouvrier, comment est-ce qu'il doit se conduire avec le pauvre, comment est-ce qu'il doit se conduire avec le riche, comment il doit se conduire avec tout le monde, quoi. Avec ses proches, sa sœur, sa mère, on a dit, mais tout. D'accord? Alors, ça ne m'explique pas encore toutes ces lois qu'il y a envers le ani, le père, la mère, l'ouvrier, etc. Ça ne m'explique pas encore ce que signifie la Kedusha. Et si on remarque dans la paracha, on va le remarquer ensemble, vous allez voir, à trois reprises, on nous parle de Kedusha. Vid kadishtem ki kadosh ani. Vous sanctifierez car je suis saint. À trois reprises. La première fois, au début de la paracha, comme on vient de le lire. Mais là, c'est attaché à rien. Juste la Torah nous demande, soyez kedoshim. Donc, dire saint à chaque fois, ça m'arrache la bouche, ça me fait mal parce que c'est pas la bonne traduction. Pas du tout ça la bonne traduction. Alors que deux autres fois dans la paracha, nous allons voir que Vehit Kadishtem, Vehitem Kedoshim est dit au sujet d'une mitzvah précise. Au milieu de la paracha et à la fin de la paracha. Là, la Torah va nous dire, fais cette mitzvah ou ne fais pas cette avera, parce que vous devez vous sanctifier car je suis saint. Ah, donc là, ça nous ouvre un petit peu la porte. On va voir pas grand-chose, mais ça nous ouvre un petit peu la porte, ce que signifie être kdoshim. Alors, la première fois, comme on voit ici, au début de la paracha, kdoshim tiou ki kadoshani, d'accord ? Hashem, ki kadoshani Hashem elokechem. Et après, c'est toutes les mitzvot, ishimo va'aviv tiraou, après sur le pauvre, après sur les korbanot, après de ne pas se venger, après quand on nous fait du mal, on doit un lotikom et lotitor, etc. Un tas de mitzvot où c'est la vie de tous les jours, d'accord, à ce à quoi on doit faire attention dans la vie de tous les jours, quand on est confronté avec son voisin, avec son ami, avec son ennemi, avec ses proches, comment on doit se conduire. Bon. Mais on ne parle pas de notion de kedusha à ce moment-là. Par contre, regardez, au milieu de la paracha, Perek 20, Perek Raf, on nous parle de Kedoshim, mais là, on va cibler. Kedoshim, on nous demande d'être Kedoshim au sujet d'une mitzvah précise. Laquelle ? Regardez. Perekraf. Vous avez Perekraf ? Page 299. Vaïda Berachem el Moshe. Les morts ? Vous avez Perekraf ? Pasukalef. Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, Vel Bene Israël, Tomar, Ish, Mi Bene Israël, ou Minagav Israël, Asheriten Mizaro la Moler. Tout homme d'Israël qui donnera son fils ou son petit-fils, son descendant, la Moler à Moler. Moler, c'est une Avodazara qui a duré jusqu'à l'époque déjà. Et il y a deux grandes Avodazara qui ont duré longtemps, c'est celle de Baal Tsephon. Et Moler. Ils ont duré à l'époque de Moshe Rabbeinu quand ils étaient dans le désert. Alors, qui donnera sa descendance, la Moler, à Moler, Mot Yumat est coupable de mort, Amaharet, le peuple, Irgamuhu Ba'aven, le lapidera par la pierre. Alors, qu'est-ce que c'est Moler ? Rashi explique ce que c'est Moler. C'est quand on fait passer son fils entre deux feux. Pas vraiment dans le feu, on ne le brûlait pas. Mais on le fait passer entre deux feux.
Deux lignes de feu,
on fait passer au milieu. Comme ça, Rashi explique. C'était une manière de servir la Avodazara. Baal Peor, c'est une Avodazara encore qui existait à l'époque de Moshe, les Béni Israël, qui a duré encore pas mal de temps. Baal Peor, il s'agissait de faire tout un tas de choses perverses et dégueulasses devant cette Avodazara. Et plus on était sale, et plus on était un chassid. D'accord ? Bon. On ne parle pas de ça. On parle de Moler. Moler, c'est faire passer son Zera, Zaracha, son fils, son petit-fils, tout descendant, entre deux feux. Ça, Moler. Et là, Alem ya Alimu, donc si vous ne regardez pas cet homme-là, vous ne faites pas attention et vous ne punissez pas comme il faut, Vesamti Aniet Panay Baishaou, moi je m'occuperai de cet homme-là qui fait passer ses enfants la Moler. D'accord ? Vanefesh Asher Tifne, alors. Vanefesh Asher Tifne El Ovot Vele Ideonim, et toute personne qui ira aussi vers les Ovot et Ideonim, vers les sorciers, hein, d'accord, chacun est différent de l'autre, on verra ça à la fin du shiur. Disons Tacharim, Venatati et Panay Vanefesh Ahi, Veirati Oto Mikerev Amo. Et je le retrancherai de son peuple. Veikadishtem, là, au sujet de Avodazara, la Torah nous dit tout de suite, collé à cette Avodazara-là, ce culte-là, vid kadishtem, vitem, kedoshim, ki ani, hachem, elokechem. Voilà. Là, on nous donne la mitzvah de kedusha. Donc là, c'est plus ciblé. Au début de la paracha, on nous dit soyez kedoshim. Point. Et là, on nous parle de quelqu'un qui est oved avodazara, qui est idolâtre. Et là-dessus, on nous colle la notion de kedusha. Donc déjà, bon, déjà, quelqu'un qui est kadosh, c'est quelqu'un qui ne fait pas avodazara. Déjà, on avance tout petit peu, mais on avance un petit peu. D'accord ? Donc, le deuxième, Kedoshim Tiyu, il est collé à la mitzvah de Avodah Zara. De ne pas faire passer son Zera, de ne pas faire passer sa descendance entre les feux de Moler. C'est une Avodah Zara. D'accord ? Troisième point dans la paracha où on cible la Kedusha, de nouveau, vous allez voir, c'est quand on va développer cette notion de Kedusha, vous allez voir combien elle est importante, vraiment, mais de façon très très forte dans la vie de chacun. Et on va ensuite développer cette notion-là au niveau du Ham Israël. Vous allez voir comment c'est intéressant. Donc, deuxième point. Troisième point où on précise la Kedusha, c'est à la fin de la paracha. Vous savez où ? Au sujet des behemah, teme'a, les animaux qu'on a le droit de manger, les animaux que l'on n'a pas le droit de manger, la Torah nous demande d'être saints. Elle nous précise, comme c'est marqué, regardez à la fin, page 301, on va prendre, disons, à partir du Pasuk Rav Dalet, c'est juste un peu avant Martyr. Va omar lachem, atem tirshu et admatam, vous hériterez leur terre, des goyim qui étaient avant nous. Vani et nena lachem, je vous la donnerai à vous, la rechette ota, afin que vous puissiez l'hériter, et rezavatra la boudvache, une terre où coule le lait et le miel, ani, Hachem elokechem, Hachem vidal, tietrem inaamim, je suis Hachem qui vous a séparé des peuples, vivdal tem benabe, encore, Hachem vidal tim naamim, je vous ai séparé des peuples, vivdal tem benabe ma teora la temea, vous ferez bien la séparation entre la BMA qui est pure, qui est cachère, et la BMA qui est téméa, qui est interdite à la consommation, ou ben a off a tamé la taor, et le off qui est permis à la consommation et qui est interdit à la consommation. Faites bien la différence, ne mélangez pas à tous les niveaux que ce soit. Et ne vous salissez pas votre nefesh dans les animaux et les volailles, bechol asher tirmos adama, tout ce que la terre qui rampe sur la terre, asher ivdalti lachem letame, encore une fois, parce que c'est pour cela que je vous ai séparé et je vous demande de ne pas vous souiller, de vous salir avec ces aliments. Et là on nous dit la kashrout, on nous dit veitem li kedoshim ki kadosh ani hashem, et vous sanctifierez, car moi, Hachem, je suis saint, va avdil et très minaamim liotli, et je vous séparerai des peuples pour être avec moi. Là, la Torah nous dévoile quelque chose d'extraordinaire, c'est que les lois de la kashrout, apparemment, les lois de la kashrout sont là pour nous séparer des peuples, des nations. Je croyais que la loi de la kashrout, c'était quelque chose... le néfèche, pour la pureté de l'homme, etc. C'est fait pour nous empêcher de nous mélanger, pour bien nous séparer entre eux et nous. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a dit, bon, c'est à partir du moment qu'on ne peut plus manger sur la même table, c'est fini, on ne peut plus être ensemble. Vous voyez l'importance qu'il y a de manger ensemble. À partir du moment qu'on ne peut plus manger ensemble, impossible, on est obligé d'être différent d'eux. C'est comme ça, la table. Vous voyez ? Alors donc, et là, on nous cible et on nous dit, la shmira de la kashrout, quand on observe bien la kashrout, on rentre dans le cadre de Kedoshim Tiyu. Donc deux points. Deux points où la Torah cible, deux points où la Torah nous précise que si tu fais ça, tu perds ta kedusha. Si tu observes ça, tu es kadosh. Si tu n'es pas un idolâtre de Moler, d'accord ? Si tu ne fais pas ça, tu rentres dans le cadre de Kedoshim Tiyu. Tu es kadosh. Si tu respectes les lois de la kashrout, tu es kadosh. Voilà, on a déjà une ouverture. Bon, alors, quelqu'un qui fait attention de manger très kasher, de faire très attention, etc., il peut dire, c'est ça la kedusha. C'est quelqu'un qui mange strictement kasher. C'est ça quelqu'un de kadosh. Voilà, c'est marqué explicitement dans la Torah. Donc, par voie de conséquence, quelqu'un qui est séparé des goyim, qui ne se mélange pas avec les goyim, qui ne va pas avec n'importe où, n'importe quand avec eux, d'accord ? Eh bien, il rentre dans le cadre de Kadosh. Mais enfin, c'est quand même assez restreint comme explication Kadosh. De même, quelqu'un qui ne prend pas son fils Zaro la Moler, il est Kadosh. Aujourd'hui, c'est fini Moler. Hein. Heureusement d'ailleurs. Oui. Bon, Moler, c'est fini. Donc, est-ce que je peux me définir par Kadosh à travers cette mitzvah, de ne pas amener son enfant à la molaire, on va voir que oui. On va voir que, en tous les cas, molaire n'existe plus. Mais la Torah nous dit que quelqu'un qui s'éloigne de molaire, qui ne suit pas molaire, il est kadosh. Hein? C'est quelqu'un qui met son fils dans l'alliance, qui rentre dans l'alliance de feu, du feu. D'accord? C'est une manière de d'adorer le feu, rentrer à l'intérieur du feu et traverser le feu. D'accord? Ça, c'est une avodah zara en soi. Et la Torah nous dit, celui qui observe ça, il est, qui observe ça, ça veut dire qu'il fait attention à ne pas amener son enfant de la molaire, il est kadosh. Bon. Mais ça reste encore assez restreint et assez ciblé. Il n'y a plus molaire, donc... est-ce que je suis concerné par ça? Vous savez, la Torah, c'est une orale à Dorot. La Torah, c'est un enseignement pour toutes les générations. Et ici, là, précisément, là, en quoi ça me concerne? Vous allez voir, vous allez sauter en l'air tout à l'heure. Quand on va déchiffrer, qu'on va comprendre ce que c'est molaire, d'accord? Vous allez être content. Vous allez voir. Et c'est très fort parce que on va s'appuyer sur un Zohar, on va déchiffrer, quoi. On va être obligé de décortiquer, comme d'habitude. Donc nous avons trois endroits dans la Torah, tout à fait d'emblée au début, c'est la notion générale, Kedoshim Tiu Kedoshani, on l'attache à aucune chose. Soyez Kedoshim, point. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, si je continue un petit peu, si je m'éloigne de l'itoulatrie, je peux être Kadosh, si je mange Kacher, je suis Kadosh. C'est un Kadosh, quelqu'un qui fait attention de manger Kacher, il est Kadosh. D'accord? Donc, il peut manger du matin jusqu'au soir, il peut s'amuser, il peut être... Bon, je mange Kacher, c'est que tu manges Kacher. Il est Kadosh. Oui, ça y est. Donc, rentrons dans la définition de Kadosh. Rashi a senti notre problème. Il faut bien comprendre les difficultés, les anomalies qu'il y a pour pouvoir comprendre l'explication qu'on va donner ce soir. Mais Rashi déjà a senti que le mot Kadosh est trop vaste, c'est pas assez précis, alors il va nous apporter une définition du mot Kadosh. Et pour ça, il va dire un mot. Ce mot-là, ça va changer notre vie. Quel est ce mot-là? Regardez Rashi. Rashi, tout au début de la paracha, Daberel ben Israël, Koladat ben Israël, d'accord? Ve'amarta alehem, tu leur diras, Kedoshim Tiu, soyez saints. Qu'est-ce que Rashi nous dit dans Kedoshim Tiu? Et vous, Perushim, Rashi dans Kedoshim Tiu, dit, et vous, Perushim, ina arayot, soyez séparés des arayot. La débauche, des nudités. Ariot, si on veut traduire mot à mot, des nudités. Nudités. On va voir, en fin de compte, que c'est mal traduit aussi. En tout cas, comme ça, on va dire la herva. D'accord? Umina avera et de la faute. Chez Kolmakom Shatamot Segeder herva, sache que à chaque fois que tu trouves un homme qui sait mettre une barrière devant la herva, devant la nudité, il sait construire une barrière entre lui et la herva et la nudité. D'accord? On va expliquer ce que ça veut dire la nudité. Hein. Et la débauche, disons, on va dire comme ça, la débauche sexuelle. Il saura mettre une barrière entre les deux. Alors, kolmakom chez Ata Motse Gederva, à chaque fois que tu vas trouver une barrière dans la débauche, dans la nudité, Ata Motse Kedusha, là, tu trouves la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Rashi nous parle de Erva. Donc la Kedusha, c'est quoi? Là, Rashi nous donne une définition de ce que c'est Kedoshim. Hein. Apparemment, qui n'a rien à voir avec la cacheroute et l'idolâtrie. Je dis apparemment parce que vous allez voir comment c'est lié une fois qu'on aura déchiffré. Apparemment, on nous dit Kedoshim dans l'idolâtrie. Quelqu'un qui n'est pas idolâtre, il est Kadosh. Quelqu'un qui mange kacher et qui suit strictement la loi de la cacheroute, il est Kadosh. Mais l'Arachi, ici, il nous quitte ça, il nous dit quelque chose, une notion générale. Il nous dit, c'est quoi la Kedusha? Erva. Aïn, Resh, Vav, et. C'est la Erva. La nudité. Alors, pendant longtemps, je lisais ce Rashi, et puis je disais, bon, ça, c'est quelqu'un qui fait attention à ne pas se soumettre avec les femmes interdites. Point. C'est quelqu'un de Kadosh. Non, à tous les niveaux, d'accord? Plus on est on sait faire la barrière entre la femme interdite et nous-mêmes, et plus on est un homme kadosh. D'accord ? Mais en fait, ça va beaucoup, 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 beaucoup plus loin. Vous allez voir. Le Zohar nous dit, qu'est-ce que c'est Erva ? Le Zohar, la Parasha, nous explique qu'est-ce que c'est Erva. Vous savez, moi, je lis le Zohar comme mon Tehillim. Et puis, je pioche des choses. J'ai pioché une chose qui est absolument énorme, énorme, énorme. Erva. Le Zohar nous explique que le mot Erva, en vérité, c'est quoi ? Il le décompose. Aïn, Resh, c'est R. Ar. Prenez le Larousse. Vous verrez, dans le petit Larousse, Ar signifie l'adversité, l'opposition, la destruction. Quelqu'un qui s'oppose et qui va détruire ce qui s'oppose à lui. Aïn Resh. Ça vient de, vous savez, dans Al-Naharot Babel, Aru, Aru, Adaïsotba, c'est marqué. Aru, Aru, Adaïsotba. C'est-à-dire que lorsque les Nebuchadnezzar et les Perses ils sont venus pour détruire le Beth Amikdash, ils avaient un slogan, ils avaient un, comment on dit ça, un mot, une phrase. Hein? Voilà, une phrase qui disait Aru, Aru, Adaïsotba. Et ils attaquaient comme ça. Aru, Aru, c'est détruisez Adaïsotba jusqu'au fondement. Quand ils ont attaqué Yerushalayim et qu'ils ont détruit Yerushalayim. Aru, Aru, Adaïsotba. Aru, ça veut dire être adverse, s'opposer, détruire. Comme ça, le Larousse nous traduit. Ça, c'est Ar, Aïn Resh. Vave, qu'est-ce que c'est Vav ? Qu'est-ce que c'est ? Le Zohar nous dit, le Vav, c'est l'homme, c'est le masculin. Comment on dit lui, l'eau, la met de Vav, pour lui. Comment on dit pour elle ? La. Comment on dit ? Avec un hé. Sa table à lui, shulchano. Sa table à elle, shulchana. Beto, beta. Le vav représente le masculin. Le vav représente l'homme. Le hé représente la féminité, représente le féminin, représente la femme. La dimension féminine. Voilà, la dimension féminine. Le vav représente la dimension masculine. Le hé représente la dimension féminine. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est Erva ? C'est la destruction du vav et du hé. Quelqu'un qui détruit la dimension féminine, la dimension masculine et la dimension féminine, vav et hé, le vav et le hé sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Dans l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hé, Vav sont ensemble. Toujours collés ensemble. C'est l'homme et la femme. Et l'homme et la femme sont faits pour s'unir et vivre ensemble et construire ensemble. Et vivre en harmonie. D'accord ? Si on détruit ces deux dimensions, on est dans la herbe. Voilà la définition rabotaï d'après le Zohar. La définition, c'est celui qui va détruire la dimension féminine. Ça veut dire que s'il ne voit que le vav, il ne voit pas le hé, il ne peut pas vivre en harmonie avec sa femme. Par exemple, là, on va commencer à développer les choses. Si on voit que la dimension féminine, plein feu sur le vav ou plein feu sur le hé, ce n'est pas bon. On détruit, on ne peut rien construire. D'accord ? Ça, c'est la erva. C'est quelqu'un, par exemple, qui est dimension masculine et qui ne veut pas la dimension féminine. Qui ne veut pas, ou bien qui ne s'entend pas, qui ne s'unit pas, ou qui n'arrive pas à s'unir avec la dimension féminine. Il est Erva, d'après le Zohar. Une femme qui n'arrive pas à s'unir avec la dimension masculine, qui ne veut pas, qui n'arrive pas, d'accord, vivre en harmonie avec la dimension masculine, eh bien, elle est dans la Erva. Donc le Zohar nous explique simplement, tout à fait simplement, que la définition du mot Erva, c'est quelqu'un qui brise, qui casse la dimension féminine ou la dimension masculine. C'est-à-dire un célibataire, par exemple. D'accord ? Oui. Ou bien le mariage pour tous, comme on parle maintenant, puisque c'est à la mode. Et d'accord ? Ou bien simplement le manque de Shlom Bayit. le manque d'union et d'harmonie dans son foyer, dans la cellule familiale. Il n'y a pas d'harmonie, il y a la discorde, il y a la mésentente et il y a la désunion. C'est Erba. C'est ça qu'on appelle Erba. Cet état-là s'appelle Erba. Et plus cette union va se construire, plus elle va se renforcer, plus elle va s'unir, et plus elle va vivre en harmonie, et plus elle va accepter le « et » accepte le « vav » et le « vav » accepte le « et », on devient kadosh. Ça, c'est la dimension de Kedusha, contraire à la dimension de Erba. Vous voyez comment ça marche? Ça, c'est le mot « erva ». Ça, on l'apprend du mot « erva ». Dit le Zohar, « er » détruit, oppose, opposé, destruction, adversité du « vav » que les deux, au lieu, les deux opposés, il n'y a pas plus opposé que le vav et le hé. Il n'y a pas plus opposé que la dimension masculine et la dimension féminine. D'accord? Ça, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas plus opposé. Pourtant, il n'y a pas plus pour s'unir. Il n'y a pas mieux pour s'unir. Et quand c'est uni, c'est l'harmonie totale. Quand c'est désuni, c'est la destruction totale. Donc, la désunion du vav et du hé, ça donne erva. Et l'union du Vav et du Hé, ça donne Kedusha. D'ailleurs, Kedusha, c'est Kadosh Vav Hé. Le mot Kedusha lui-même, dans le mot Kedusha, vous avez le mot Kadosh, d'accord ? Sanctification, du Vav et du Hé. Du Vav et du Hé. Même chose. Vous avez Erva d'un côté, vous avez Kedusha de l'autre côté. Erva, c'est la destruction du Vav et du Hé. Et Kedusha, c'est la construction du Vav et du Hé. C'est l'harmonie du Vav et du Hé. Vous voyez ? Tout commence par ça. C'est la définition, la notion de Kedusha que Rashi nous donne. Rashi veut nous expliquer, vous n'imaginez pas, Rashi nous dit des petites choses comme ça, mais en vérité, ça tient dans des montagnes. Rashi nous explique dans le mot Kedushim Tiyu, Rashi nous dit, eh oh, c'est Erva. Ça veut dire Erva. On va voir le Zohar là-bas, qui va t'expliquer justement. Plus tu es uni avec ta femme, et plus la femme s'unit avec son mari, et plus ils arrivent à vivre en harmonie, plus c'est la Kedusha. Moins ils sont unis, plus il y a la mésentente, plus il y a la discorde, plus il y a la désunion, eh bien on tombe dans la Erva. Voilà la définition de Erva, de Kedusha, d'après Rashi. Kedusha, ça va être celui qui va réussir son union avec sa femme. Et plus il va aller dans ce sens-là, plus Nikra Kadosh. Donc Rabotai, on est en train de dire maintenant tout à fait l'inverse de ce que l'on pensait, ce que c'est un saint. La Torah nous dit, vis avec ta femme, moralement, physiquement, spirituellement, unis-toi avec elle, dans le bonheur, c'est-à-dire à tous les niveaux, pas seulement au niveau spirituel, et philosopher avec sa femme toute la journée, c'est pas ça. S'unir. Donc, vous comprenez, au compte, s'unir de plaisir, de joie, de heureux. Chacun accepte l'autre, ils font qu'un seul gouffre, qu'un seul bassaré rad. Ça, c'est la Kedusha. Ça, c'est la Kedusha. Comment dites, expliquez maintenant aux autres que le Kadosh, c'est celui qui s'accouple avec sa femme, qui sait s'accoupler avec sa femme, qui sait former un avec sa femme. Il n'y a pas un plus grand plaisir charnel, moral, spirituel, au moment, à un moment où l'homme sait s'unir avec sa femme. C'est ça la Kedusha. Donc c'est tout à fait le contraire de l'image qu'on s'est donnée au début du shiur. Celui qui va vivre seul. Oui ? On va y arriver. On va voir. On va développer chaque chose. On va développer. Ça va être très 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 bien. Vous comprenez ici ce que ça veut dire ? Ça c'est la notion de Kedusha d'après Rashi. Donc Rabotai, c'est là. Voilà. Il faut prendre des choses simplement maintenant. On a réussi à décortiquer, à déchiffrer. Il faut prendre les choses bien maintenant. Il faut savoir que plus on va aller vers sa femme dans l'union, plus on va l'accepter, voir que les qualités et laisser les défauts. D'accord ? Et se construire comme ça, uniquement en regardant ce qu'il y a de bien dans l'autre, et unir le vav et le hé, et plus on ira vers la Kedusha. Et plus on va se désunir, plus on aura des problèmes au niveau du Shlom Bayit, plus on sera loin l'un de l'autre, et plus le fossé va s'agrandir, et plus on est dans l'herbe. Vous voyez ? C'est ça. Et donc, nous, en Israël, dans la Torah, on voit qu'il y a plusieurs relations avec Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs relations. Il y a la relation père et fils, Avinu Sheba Shamayim, Avinu Malkenu. Hein, on dit notion de père et de fils. Il y a la notion de maître et de serviteur. D'accord ? Adonai, c'est le maître. On s'adresse au maître du monde. On s'adresse au créateur. D'accord ? Et où on s'adresse à notre père, Avinu Malkenu. Mais il y a une troisième dimension. Et c'est la principale dimension qu'il y a entre, et relation qu'il y a entre Israël et HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi ? Hatan Vekala. Am Israël, dans son entité, d'accord ? C'est la Kala. Le Hatan, c'est HaKadosh Baruch Hu. La Ktuba, elle est où ? C'est la Torah. Et on va droit au Matan Torah, Shavuot. Shavuot, on nous parle d'Am Israël qui est sous la Chupa. D'accord ? Et qui reçoit la Torah, qui est la Ktuba, c'est les engagements qu'il y a de la femme envers le mari et le mari envers la femme dans la Ktuba. C'est signé devant des témoins. Les deux témoins, c'est Shamaïm va'aretz. D'accord ? Aazinu ha-Shamaïm va'adabera v'tishma ha'aretz imrefi. Moshe Rabbeinu va prendre à témoin le ciel et la terre en disant à Israël, voilà, garde bien cette Ktuba-là qu'on t'a donnée, garde-la bien. Il y a deux témoins, Shamaïm va'aretz. Ça va ? Shamaïm va'aretz, ça va aller. Ça va pas, Shamaïm va'aretz, il va être en feu. Voilà. Sache-le. Que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit... Les pluies qui détruisent tout, comme on entend sans arrêt, etc. Shamaïm va'aretz sont les témoins de notre mariage entre Am Israël et HaKadosh Baruch Hu. Apparemment, ces temps-ci, HaKadosh Baruch Hu n'est pas très content. Quand on voit tous ces morts qu'il y a, entendu un petit peu, que ce soit au niveau de ceux des naufragés qui sont morts et noyés, une semaine plus tard, un séisme, qui des milliers de personnes qui sont mortes, quand on entend ça, on tremble. Mais surtout quand on entend que dans la ville Katmandou, c'est ça, c'est là où ça a tapé le plus fort. Ce sont 12 temples hindouistes qui ont été détruits. 12 temples hindouistes qui ont été détruits, Rabotai. On voit la colère, et qu'est-ce qu'il y a dans ces temples-là? C'est pur Avodah Zarah. L'hindouiste et le bouddhiste, voilà. Tout ça, c'est pas tout à fait la même chose, il y a des différences, des petites différences, mais c'est Avodah Zarah pur. Pur, pur, pur. Ça veut dire que dans chacun, on doit avoir une petite statuette dans chaque maison, d'accord, et dans chaque magasin, etc. Et sachez-le. Absolument, absolument. Les Chinois aussi, ils sont des bouddhistes. Voilà. Voilà. Quand on sait que le séisme, il a tapé en plein cœur de la capitale idolâtre, qui est Katmandou, et 12 temples ont été détruits avec le Avodah Zarah. D'ailleurs, il y a des images. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu une image où c'était un temple entièrement et l'idole qui était cassée, brisée par terre. C'est une image, je ne sais pas, on ne peut pas passer indifférent là-dessus. On voit vraiment quel est le but de ce séisme, le but de cette maca. C'est terrible. Nous, on la comprend. On ne peut pas fermer les yeux, il faut comprendre ce qui se passe en bouteille. Et donc, ce que je veux dire, c'est, donc le ciel et la terre sont les témoins d'un autre mariage. La relation qui a été retenue, la relation la plus forte qui a été retenue entre Israël et HaKadosh Baruch Hu, c'est la relation entre époux et épouse. Khatan Vekala. C'est celle qui a été donnée. Lorsqu'on a reçu la Torah, on n'a pas reçu la Torah entre un père qui donne à son fils. On n'a pas reçu la Torah entre un maître qui va donner à son serviteur un ordre. C'est pas ça. Quand on a donné la Torah, partout les Chachamim nous parlent de quoi ? De mariage. De mariage. D'accord ? C'est la relation. Donc ça veut dire quoi, Rabotai ? Ça veut dire que si au niveau de la cellule familiale, on sait le vav et le hé, on sait l'associer et l'unir, alors automatiquement, on réussit dans sa relation avec HaKadosh Baruch Hu. Si on reçoit. C'est lié, Rabotai, c'est lié. On ne peut pas être un terroriste, mais on ne peut pas être une terreur à la maison, D'accord ? Un dictateur, quelqu'un qui ne respecte pas sa femme, et ensuite à la choule faire le bon religieux. C'est impossible. Si cette relation... Pourquoi ? Parce que c'est la même relation. C'est la relation vavé qui est détruite. Qu'elle soit avec sa femme, ou qu'elle soit vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est détruit. Quand c'est désuni là, c'est désuni là-bas. Quand c'est uni là, c'est uni là aussi. C'est comme ça. Ça va avec. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas. Et vice versa. On ne peut pas être fâché avec Akadosh Baruch Hu et être vraiment uni avec sa femme. C'est impossible. Impossible. Parce que la dimension Vav-E est détruite à un niveau. Mais elle commence d'abord, si on veut aller plus haut, elle commence d'abord avec la relation avec sa femme. Et c'est ça, Erva et Kedusha. D'un côté, Erva, c'est l'adversité entre le Vav et le E, manque du Shalom Bayit. Et Kedusha, c'est quoi? C'est la sainteté entre le Vav et le E. C'est l'union. Le mot Kadosh, je vais dire union du Vav et du E. Comprend qui comprendra. Maintenant, revenons-en à notre paracha, Rabotai. Dans notre paracha, nous voyons qu'on cible, après la notion générale Kedoshim Tiou, on va cibler, on va parler de quoi ? Abodazara, la molaire. D'accord ? Esh, le feu. Et on nous dit, si on observe cette mitzvah-là et on ne donne pas ses enfants dans le Esh, on est appelé Kadosh. La Torah nous le dit. D'accord ? Alors, Abota, ils se sont réfléchis un peu, qu'est-ce que c'est la Abodazara ? La Abodazara, où on doit être Kadosh. La Abodazara de Moller. Abodazara, Abota, l'idolâtrie, c'est quoi ? C'est une religion, justement. La Abodazara, c'est une religion qui ne reconnaît pas l'union Vavé. La religion qui ne met pas dans le centre, au centre, de la vie religieuse, l'union entre le Vav et le He, c'est Avodah Zara. Ça veut dire que on peut remarquer dans les civilisations religieuses, prenons la civilisation chrétienne, d'accord, que la notion He, c'est quelque chose de pas recommandé. Si on veut s'élever, on veut s'attacher à Dieu, eh bien, eux ne voient pas d'autre solution de rester célibataire. Donc, c'est le rejet, c'est quoi ? La religion chrétienne, c'est quoi ? C'est le rejet de la dimension féminine. Le rejet du est. Puisque si tu veux devenir, tu veux te consacrer à Dieu, tu ne peux pas te marier. Donc, c'est le rejet. Hein ? Ou les sœurs aussi, exactement, c'est là. De l'autre côté, c'est le Vav qui rejette le Hé. D'accord ? Ce sont toutes ces sœurs-là qui se consacrent entièrement à Dieu en rejetant la notion Hé. C'est ça, Moller. C'est ça. Ça s'appelle l'idolâtrie. Ça veut dire que la Torah nous explique là. Aller dans un mode de vie religieux, spirituel, où on rejette la notion « hé » et la notion « vav », où être kadosh, être saint, être un grand homme, c'est de désunir, de rejeter où le « hé » et le « vav », on est dans l'idolâtrie. Avec Moller, quel rapport avec Moller ? La Torah n'a pas pris n'importe quelle Avodah Zara. Elle a pris celle du « esh ». C'est du Esh. Qu'est-ce que c'est? Ish ve Isha. Ish ve Isha. La dimension masculine et la dimension féminine. Si on retire le Yud et le He, il reste Esh ve Esh. C'est les deux Esh de Moller. C'est ça l'allusion que la Torah nous fait. Pourquoi elle ne nous a pas pris une autre religion, quelqu'un qui va suivre cette religion-là, Baal Tsephon, celui qui va rejoindre Baal Peor. Pourquoi la Torah n'a pas pris ces religions ? Il y avait d'autres Avodah Zara. Il y avait d'autres, ça ne manquait pas à cette époque-là. Eh bien, ou que la Torah nous dise simplement, Oved Avodah Zara. Kol Ish Oved Avodah Zara. D'accord ? Alors il est Chayav Mita. Kedoshim Tiou, Viten Kedoshim. Non, on nous prend Moler, qui Esh, passé entre deux feux. Chachamim nous disent, si un homme et une femme ne méritent pas, c'est Esh Vesh. Dieu se retire. Dieu se retire de ce couple, et il reste du Hesh contre du Hesh. C'est quoi Hesh ve Hesh? C'est quelqu'un qui met toute sa construction, ses enfants, ce qu'il construit, au milieu du Hesh, au milieu du Hesh. Regardez, Rabotai, la symbolique, comment elle est forte. Comment elle est forte. Une fois qu'on a la clé, on ouvre. On va ouvrir encore, vous allez voir. D'accord? Vous avez compris? Pourquoi mon l'air? Vous avez compris maintenant? Hesh ve Hesh. C'est passer son enfant entre deux Hesh. Or, justement, la destruction de la dimension masculine et la dimension féminine, ce n'est que du feu. Parce que j'enlève le Yud-Ké, j'enlève Dieu de ça, d'accord? Et il reste Hesh ve Hesh. C'est pour ça que la Torah nous a pris cette Avodah Zara précise, en nous disant, aller vers une mode de vie, une religion, où on rejette ou la dimension Vav ou la dimension Ré, sachez qu'on est au Veda Avodah Zara, on n'est plus dans la Kedusha. Et plus on va s'éloigner de ça, on sera dans la Kedusha. Vous avez aussi l'inverse. Vous avez la religion qui va être celle de la femme voilée. Celle où la femme n'existe pas. C'est-à-dire, elle est là, c'est une chifra, c'est une servante. Et on sait combien, renseignez-vous un petit peu, je suis sûr que vous êtes au courant, on sait très bien quelle vie les femmes musulmanes supportent. C'est terrible. On les prend, on les jette. Regardez tout ce qui se passe. Ils volent des filles, puis les prennent comme femmes, et puis des massacres, ils font souffrir. Combien il y a eu de témoignages, combien? Et ça, je parle uniquement chez les religieux. Attention, parce que cette religion-là, d'accord, elle prône l'autorité, la supériorité de l'homme sur la femme. Le fait de la voiler, de lui enlever toute sa dignité, d'accord, de la voiler complètement. Pardon? Complètement, d'accord. Donc, vous voyez, la femme voilée, c'est justement le rejet de la dimension E. C'est une religion, d'accord, où on rejette complètement, même si on se marie dans cette religion. Il faut se marier. Mais justement, c'est uniquement ça, c'est un objet pour entretenir le principal qui est la dimension Vav. C'est ça qui se passe. Donc, Rabotai, on...
Pour autant, c'est pas Avodah Zara.
Ben, c'est ça qu'on appelle Avodah Zara. C'est ça, aller vers une religion où on veut séparer la dimension et Vav, la dimension féminine et la dimension masculine. On veut séparer entre les deux. D'accord ?
Ça n'arrive pas au mariage.
Eh bien, ah oui, c'est cette manière de vivre où on ne considère pas du tout la dimension féminine, d'accord? Ou alors on considère que la dimension masculine, vous comprenez? C'est ce qui se passe entre eux, justement, la religion chrétienne et la religion musulmane. Et c'est pour ça que la Torah nous interpelle, ce que la Torah nous dit, que dans les deux religions, c'est Hesh ve Hesh. Dans les deux religions, il ne peut pas y avoir une union parfaite. C'est impossible. Impossible d'avoir une union parfaite entre les deux dimensions, entre la femme et l'homme, entre les dimensions masculines et féminines. Il ne peut pas y avoir une union parfaite. C'est Avodah Zara. Quelqu'un qui base sa vie sur l'autorité, la supériorité masculine, il est en train de faire Avodah Zara, puisqu'il est en train de détruire les dimensions. Il est dans la Erva. Tout se rejoint. Et celui, au contraire, qui va rejeter la femme et qui ne va même pas s'approcher, qui va se consacrer à Dieu, il est aussi, ça s'appelle aussi Avodah Zara, puisqu'il détruit la dimension féminine. Vous voyez? Et c'est pas étonnant, Rabotai, c'est pas étonnant que nous arrivons maintenant à une période, à une époque, où il y a plus, de moins en moins de différence entre la dimension masculine et la dimension féminine. On n'arrive plus à voir où est la différence entre les deux. On n'arrive plus. On n'arrive plus à voir qui est masculin, qui est féminin. Plus aucun repère, plus aucun. Et ça commence à rentrer dans l'éducation et la mentalité. Et c'est quelque chose qu'on veut intégrer dans la société, qu'il n'y a pas de différence entre le hé et le vab. Or, il doit y avoir cette différence. Pour construire quelque chose, on ne peut pas le construire avec du oui-oui ou du non-non. Pour construire quelque chose, il faut du oui et du non. Il faut du positif et du négatif. Il faut deux choses opposées l'un à l'autre. C'est la seule manière de construire. Il n'y a pas d'autre. Donc ce n'est pas étonnant qu'on, dans le pays dans lequel nous vivons, parce que c'est quand même un pays de référence, la France, parce que c'est un pays qui est la locomotive de toute l'Europe. D'accord ? Dans ce pays-là, nous avons d'un côté l'emblème de la Marianne, sur les barricades, comme vous la connaissez, avec la poitrine découverte, d'accord ? C'est l'emblème de l'Occident. Oui. Et vous avez l'emblème, vous avez de la femme musulmane, c'est la femme voilée. L'une avec la burqa, l'autre sur les barricades. Je sais pas, moi j'aime bien les jeux de... Je pense qu'il y a quelque chose. Barricade, burqade. Il y a quelque chose. Moi j'aime bien. C'est pas par hasard.
C'est pas une caricature.
C'est pas par hasard. Hein, c'est pas une caricature. C'est la vérité. D'accord ? Vous avez dans le même pays qui a dévoilé qui a découvert la Marianne, d'accord ? Comme on la connaît. Ou alors quand on représente la République, on représente une statue de tête de femme. C'est la tête de femme, découverte, avec les cheveux, etc. C'est pas étonnant que dans ce pays-là se pose le problème de la burqa, de la femme voilée. Sauf, les dimensions vont se choquer, vont s'entrechoquer. Les deux manières, elles ne peuvent pas vivre, ça ne peut pas durer. L'une va détruire l'autre, ou les deux vont se détruire en fin de compte. Vous voyez ce qui se passe ? Quand on ne verra plus aucune différence entre le hé et le vav, on aura tout détruit. Vous voyez ? C'est ça l'enseignement à travers le molaire, qui est justement le hesh. Qui est justement le hesh, c'est l'absence de Dieu dans la dimension masculine et la dimension féminine. Voilà, vous avez compris. Est-ce que ça peut nous concerner plus que ça, Molaire, aujourd'hui, maintenant ? C'est mamash, quelque chose qu'on l'on vit, que l'on voit autour de nous, cette opposition qu'il y a entre d'un côté la femme voilée, de l'autre côté la femme qui est découverte. Donc, c'est pour ça que je dis, ni la femme voilée, ni la Marianne, mais la femme juive. La femme juive, c'est celle qui ne se voile pas et qui ne se découvre pas. Vous voyez ? C'est celle avec laquelle on peut unir vraiment. On voit la féminité, parce qu'une femme juive doit être féminine, elle ne doit pas, sous prétexte de tzniout, cacher sa féminité. Au contraire, une femme juive, elle doit plaire à son mari. Si elle ne plaît pas à son mari, c'est grave. Elle doit faire des efforts. La femme doit faire des efforts toujours pour plaire à son mari. Et de même, le mari, savoir que sans cette dimension féminine, il n'est rien. Il n'est rien. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Impossible de construire. Impossible de construire sans les deux dimensions. C'est impossible. Écraser la femme, ou au contraire la dévoiler comme on la dévoile, c'est aussi un manque de dignité, un manque de respect de la dimension féminine, d'accord ? Eh bien, c'est simplement détruire les fondements de ce qu'on vient d'expliquer. Ça, c'est pour maintenant l'idolâtrie. Maintenant, à la fin, on nous parle de la cacheroute. Alors, dans la cacheroute, on nous répète exactement la même chose, comme on l'a vu tout à l'heure. On nous dit... Soyez séparés des goïms, des nations, soyez d'accord, je vous donne la cacheroute justement pour que vous séparez de. Mais pourquoi ? Pourquoi se séparer des nations ? Pourquoi le juif doit-il être séparé du goï ? Pourquoi pas ne pas vivre ensemble, se marier ensemble et chacun vivra ? Non, mais ça se passe dans beaucoup de couples, ils ne sont pas juifs. Pourquoi cette séparation ? Pourquoi cette séparation ? Pourquoi se séparer des goïms ? À un tel point qu'on va nous donner. Les lois de la cacheroute pour... C'est fini. Impossible. On ne peut pas manger la même chose. C'est impossible. On ne peut pas manger dans la même table. C'est impossible. Pourquoi ça ? Pourquoi cette séparation ? Bien, Rabotaï, justement, les lois de la cacheroute, elles sont faites pour qu'un juif reste juif et qu'un goy soit goy. Le juif soit juif et le goy soit goy. Parce que nous trouvons à travers le peuple juif et les nations... Cette dimension masculine qui est représentée par le juif, qui est là pour apporter à l'humanité, comme l'histoire a tellement montré et prouvé, et les goïms sont là pour accepter ce message, parce que jusqu'à maintenant, le message, spirituel dans ce monde, c'est le Ham Israël. Tout le monde reconnaît que c'est Ham Israël qui l'a amené. D'accord ? Maintenant, les nations ont du mal à l'accepter, à le recevoir. Ou alors, ils le reçoivent, mais à leur manière. En tous les cas, vous avez là une mention, une dimension masculine et une dimension féminine. La dimension masculine qui est faite pour donner et la dimension masculine qui est faite pour recevoir. Le Ham Israël, il est là pour apporter quelque chose à l'humanité. C'est notre mission, c'est notre rôle. Et les nations sont là pour recevoir ce message et construire. C'est le but de la création. Le but de l'humanité, c'est que le Ham Israël puisse se construire et s'unir avec les nations. Pas devenir un goy, mais s'unir avec les goyim. S'unir pour construire. Il faut que j'apporte quelque chose et les nations le reçoivent. Et construisons ensemble. Comme les Romains se souviendront à la fin des temps, en disant, vous savez, tous les ponts et chaussées, toutes les routes que nous avons construites, ce n'est que pour Israël que nous l'avons construit. Évidemment, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Bande de chotim. Vous avez ça pour vous, pour gagner votre vie, pour faire de l'argent. Et ça t'en passe. Eux, ils vont dire, voilà, on a fait profiter les Juifs. D'accord ? Ça veut dire que quoi ? En vérité, le but, c'est quoi ? C'est que les nations soient là pour permettre à Israël de donner et de transmettre. Donc on est fait pour ce mariage. Mais attention, ce mariage, il faut que la femme reste femme, il faut que l'homme reste l'homme, sinon catastrophe. Comprenez ? Donc quand on nous parle d'union avec les Oumot, d'union avec les nations à la fin des temps, l'humanité entière va reconnaître Baya Hashem, la Melech Al-Kol Haaretz. D'accord ? Donc ça veut dire cette union qu'il va y avoir entre Israël et les nations, c'est la même union qu'il y a entre une femme et un homme. Et l'union qu'il y a entre une femme et un homme, il faut que la femme reste femme, il faut que l'homme reste l'homme. Mais si chacun joue, lui il joue la femme et elle joue l'homme, c'est la destruction. Vous comprenez ? Donc le juif reste juif, surtout. Et le goy reste goy. Pardon ? Et il va y avoir une construction, une union, une ardoute entre les Oumot et Israël. C'est le mariage, une ardoute qui va construire l'humanité. Et là, de façon positive. Vous voyez ? C'est le mariage. Alors justement, les lois de la cacheroute, en fait, Rabotaï, ça va beaucoup plus loin qu'on imagine. En mangeant cacher, eh bien, on nous se donne la force de bien pouvoir observer ces deux dimensions. Voilà le fond, le sod, le secret de la cacheroute. Pourquoi est-ce qu'on doit manger cachère ? C'est pour que rester juif. Parce que nous devons rester différents des autres. On a tendance à aller vers les goyim. On a tendance à leur ressembler. On a tendance à les imiter et trop s'intégrer à eux. On a tendance à ça. Quelle est la chose qui peut nous retenir ? La cacheroute. Simplement parce qu'on ne peut pas manger sur la même table ? Non, ça commence par peur, on ne peut pas manger sur la même table. C'est beaucoup plus profond que ça. La behema kshera qu'on va manger, le kasher qu'on va manger, a en lui cette force de nous maintenir dans cette behina, dans cette dimension de vav. Sinon, c'est possible. C'est-à-dire d'être lucide et de distinguer entre le hé et le vav. D'unir le hé et le vav. D'unir le hé, parce que ça ne suffit pas rester vers, il faut aller vers aussi le hé. Donc, d'unir les deux. Comment ? D'où est-ce qu'on voit ça dans la cacheroute ? Qu'on peut unir le hé et le vav, Rabotai ? C'est très simple. Vous avez deux simanimes dans la cacheroute. Vous avez les ruminants, vous avez le sabot fendu. Rabotai, les ruminants, c'est celui qui sort de lui. Ça représente une dimension masculine. Le sabot fendu, d'accord, c'est celui qui a son signe de cacheroute intérieur. Une fente, l'intérieur. Donc c'est la dimension féminine. Et manger cachère, c'est observer ces deux signes-là. Et ces deux signes-là, le ruminant avec le sabot fendu, eh bien ça nous donne, nous, la force de pouvoir rester vave et d'unir le hé. C'est ça les deux simanimes de cacheroute. Les deux signes de la cacheroute, le ruminant et le sabot fendu, C'est la dimension masculine et la dimension féminine. Le ruminant, il sort de son corps pour le réintégrer, pour faire quelque chose avec ça. Et le sabot fendu, c'est justement le signe qui est intérieur, parce que la femme, elle est kol kevoda bat vener penima, sa kedusha, à la femme, c'est quoi? Sa grandeur à la femme, c'est vers l'intérieur. Donc son signe de tahara, c'est vers l'intérieur. Donc la bema tehora, de la dimension féminine, son signe de kashrut, c'est vers l'intérieur. Alors que dans la BMA, la dimension masculine, le signe de kashrut de la dimension masculine, c'est celle de sortir quelque chose de l'intérieur. Tout à fait l'inverse. Vous avez remarqué, ruminant et sabot fendu, c'est opposé, c'est vavé. Et quand on va réussir à unir, justement, et manger strictement kasher, eh bien, on réunit les deux simanim, masculine et le siman masculin et le siman féminin, on les unit ensemble et ça nous donne cette force-là d'unir le vav et le hé, encore une fois. Voilà pourquoi c'est les deux seules fois à Avodah Zarah, celle de Moler, d'accord, c'est-à-dire celle qui va détruire la construction de l'homme, c'est Esh ve Esh, c'est le rejet de la dimension masculine ou le rejet de la dimension féminine, c'est le problème qu'il y a à notre époque, à nous, le problème de la femme. En vérité, c'est ça qui se passe. Le gros problème de la société, de la vie, le malaise qu'il y a dans la vie en dehors de la Torah, c'est le problème de la femme. On ne sait pas quoi faire avec la femme. On ne sait pas quoi faire avec elle. Parce que on peut trouver, on cherche cette dimension féminine à travers la dimension masculine. On cherche la dimension masculine à travers une dimension féminine. C'est ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Donc c'est entièrement la destruction du lait et du vav. Et quand on sait « Ar », on détruit « Vavé », on est dans la herbe. Par contre, quand on essaye d'unir, le mot « Kadosh », c'est l'union. Voilà. Si on veut traduire la Kedusha selon les secrets de la Torah, le Soda Torah, c'est l'union, par excellence, l'union. C'est pour cela que lorsqu'on se marie, on dit Areat Mekudeshet. On fait la bracha Baruchat Hashem, hein? Al Yeder Kupa Vekidushim. On voit la notion Kedusha dans le mariage. C'est justement l'union du Vav et du Hé.
Il y a la même union dans la Kashrut avec le sabot.
Dans la Kashrut, c'est la même chose. Mais là, la Kashrut, c'est un niveau de entre Israël et les nations. D'accord? Alors que dans l'Avodah Zarah, l'union du Hé et du Vav, c'est la notion, dans la société même, la notion masculine et féminine. Dans la société juive, dans une société qui est basée al-Pi à Torah, on reconnaît le Vav et on reconnaît le Hé. Il n'y a pas de mélange. Il y a une méritza entre les deux. Il y a une méritza, mais en vérité, il y a une union extraordinaire. Il y a une dignité de la féminité. On ne la rejette pas ou on ne la cache pas. On la découvre pas et on la cache pas. Vous voyez, c'est le vrai respect de la dimension E avec le Vav. Et c'est ça ce que la Torah nous propose à travers la Kedusha, c'est d'aller le plus possible dans le sens de l'union avec sa femme. S'unir, mais d'un point où vraiment on rejette et on ne peut plus voir les défauts de l'autre. D'accord? Et on ne voit que les qualités. Et on va dans ce sens-là, le plus haut possible, automatiquement, la construction qui va en sortir, ça va être des enfants kudoshim, des enfants avec une kudusha qui viennent d'une kudusha. Ce sont des enfants qui ne posent pas de problème. Aucun problème. Des enfants qui vont, ça va aller tout seul, l'éducation, ça va aller tout seul. Les notes en mathématiques, ça va aller tout seul. Tout va en gmara, en tout, ça va être très excellent. Tout ça vient, ça. Ça vient à Botaï la plupart des fois. Ça vient de la Kedusha qui est au niveau du père et de la mère. Au niveau de l'union. Vous comprenez ce que je veux dire? L'union, j'accepte la dimension féminine et j'accepte la dimension masculine. S'il y a une union à ce niveau-là, eh bien, sachez que ce que vous construirez, ben, dans ta chaîne, ce sera Kadosh. Et plus on va dans la désunion à ce niveau-là, et plus on rentre dans l'herbe. Voilà la définition qu'on a pu tirer donc de Rashi et de la Paracha. Donc je vous encourage de renforcer l'union au niveau de votre femme, de renforcer l'union. Et de façon générale, de savoir distinguer bien entre ce qui est dimension masculine et dimension féminine pour pouvoir construire un jour, Bézat Hachem, à une humanité qui va pouvoir s'entendre et construire ensemble. Amen. Alors maintenant, on fait quelques questions.